Voilà, nous sommes au troisième jour de notre séminaire intitulé Vivre et travailler ensemble dans l'Église. Et nous avons lu plusieurs passages bibliques qui montrent la volonté de Dieu de nous voir unis ensemble, non seulement pour vivre notre foi, mais aussi pour travailler selon ses objectifs à lui. Nous allons relire encore Actes 2, 41-47, qu'on a lu dès le premier jour. Ensuite, on passera à Matthieu 16, 18-20, et puis 1 Timothée 3, 14-15. On commence par Actes 2, 41-47.
Lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 2, versets 41-47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient tous dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Amen. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc on mentionne l'Église du Seigneur, la famille de Dieu. Dieu rajoutait encore des gens. Donc c'est une phrase importante. C'est le Seigneur qui ajoutait dans l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce n'est pas nous qui ajoutons. C'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Il peut se servir de nous, mais c'est lui qui ajoute. Nous continuons. Matthieu 16, 18-20.
Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ.
Voilà, donc là le Seigneur dit, tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église. Là encore il dit, je bâtirai, donc c'est le Seigneur qui bâtit son église. Donc il faut qu'on en prenne conscience, c'est très très important. Beaucoup de gens prennent des idées, ah ben on va commencer une église, on va faire ceci. Non, c'est le Seigneur qui bâtit son église. Et beaucoup aussi pensent être super importants. Pour faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est bien dit, c'est « je bâtirai mon église », c'est Jésus qui parle. Nous ne sommes que des instruments, mais nous voyons, c'est aussi un appel à être vigilant. Attention, l'église, ce n'est pas l'église d'un homme. L'église, ce n'est pas l'église d'un groupe, c'est l'église du Seigneur. C'est pourquoi notre titre aujourd'hui, c'est l'église du Dieu vivant. C'est à lui. Donc il faut faire attention dans notre façon parfois de vouloir s'opposer à l'Église du Seigneur, si c'est vraiment l'Église de Dieu, ça risque de nous coûter des problèmes. Donc, parce que c'est le Seigneur lui-même qui bâtit et il n'a pas besoin de nous expliquer toutes les étapes de sa façon de faire. Donc, soyons humbles, chacun reste à sa place. 1 Timothée 3, 14 à 15.
1 Timothée chapitre 3, verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité.
Voilà, l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église, avec les passages qu'on vient de lire, est une construction de Dieu. C'est clair. Tous les passages que nous avons lus nous montre que c'est Dieu qui construit son Église. C'est la colonne de la vérité, l'Église du Dieu vivant. C'est l'ensemble de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. C'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un mouvement. C'est l'ensemble de tous ceux qui, le jour où ils rencontrent Jésus, ils cèdent, ils comprennent qu'ils étaient perdus à cause de leur péché. Et pour ceux qui croient qu'ils ne pêchent pas, la preuve c'est qu'ils vieillissent et ils se dirigent vers la mort. C'est la preuve qu'ils pêchent aussi. On a le mal en nous, c'est ce qui nous amène à vieillir et puis à mourir. Et Jésus est venu nous sauver de cela. Donc quand on prend conscience de ça, on se dit, je ne veux pas aller à la mort et finir en enfer. Je veux être sauvé. Je veux vivre par Jésus. Il me donne la vie éternelle gratuitement. Et quand on accepte ça, on se donne à lui, notre vie change. On prend sa vie. Tout à l'heure, nous allons avoir des baptêmes. Le baptême, c'est quoi? C'est accepter de mourir par rapport à son ancienne vie. L'ancien Germain, l'ancien David, l'ancien Corinne n'existe plus, mais c'est Jésus qui va vivre dans la personne. Donc tu prends la vie de Christ. Et quand quelqu'un prend la vie de Christ, Christ le met dans son église. C'est Christ qui le pose dans sa construction. Comprenez que c'est très important. D'où on ne peut pas être un chrétien isolé, vivant sa foi tout seul. Parce que Christ nous remet tout. Donc, dès que tu es sauvé, acte 2 qu'on a lu, 41-47, il dit que le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, quand tu es sauvé, le Seigneur t'ajoute à l'église. Comment Dieu peut te sauver et te laisser en dehors de l'église? C'est impossible. Il t'ajoute à l'église. Mais l'église, ce n'est pas un mouvement. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un endroit, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand on dit église, il faut qu'ils aient dans une salle qui a été louée ou achetée, où il y a quelqu'un qu'on appelle pasteur qui fait les choses. Non, ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est quand les groupes de sauvés se rencontrent régulièrement dans le projet de Dieu pour leur localité. C'est ça l'Église, un groupe de sauvés qui se rencontrent régulièrement pour vivre la famille de Dieu et travailler ensemble. C'est ça l'Église, c'est ça notre thème. On se rencontre régulièrement, vivre la réalité de la famille de Dieu, parce que tu ne peux pas dire que tu es dans une famille, tu ne rencontres jamais les gens de ta famille. On vit la réalité de la famille de Dieu et on travaille ensemble selon les instructions que le Seigneur nous a laissées. C'est pourquoi nous lisons aussi Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20.
Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.
Amen. Donc, on vit l'Église en famille. C'est ça, l'Église locale. Un groupe de sauvés qui s'est réuni pour vivre le projet de Dieu pour l'endroit. Et peut-être le projet de Dieu pour autre chose. Mais au minimum, le projet de Dieu pour l'endroit où on habite. C'est ça l'Église. C'est pas forcément, on n'est pas obligé d'être dans une grande salle. On peut être à 3, on peut être à 4 des sauvés qui avons considéré qu'on doit vivre la Bible et forcément se réunir régulièrement, intercéder, prier, et Dieu va s'occuper de cette construction-là. Comment Dieu va s'occuper de cette construction? Nous lisons Éphésiens 4, 11 à 13. L'Église, c'est la construction de Dieu. Ce n'est pas la construction d'un homme, ce n'est pas une association. Tous ceux qui font ce genre de choses par eux-mêmes, finissent par souffrir et tomber, et ils finissent mal, parce que tu ne peux pas faire face à Satan si Dieu n'est pas avec toi. Tu ne peux pas faire face aux forces des ténèbres si Dieu ne t'a pas appelé. Il y a des choses qui sont très complexes. Il faut que Dieu t'appelle pour te donner la force, pour te protéger. Et nous lisons Éphésiens 4, 11 à 13.
Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ.
Amen. On peut s'arrêter là. Comme ça, nous ne serons pas ballottés à tout vent de doctrine. Donc, c'est ça la suite de ce passage-là. Comme ça, le chrétien ne sera pas ballotté. Il ne sera pas léger. Il ne va pas suivre A, et puis demain C, et puis le lendemain D. Non, il faut que les apôtres, les docteurs, les pasteurs fassent leur travail. Mais bien-aimés, c'est Dieu qui suscite les apôtres, les docteurs et les pasteurs, les évangélistes. Ce n'est pas nous, notre organisation qui va les produire, c'est Dieu qui va les susciter. Donc beaucoup de personnes parfois qui se retrouvent à 10 ou à 8 quelque part ont l'impression que ce n'est pas une église parce qu'il n'y a pas quelqu'un qu'on appelle apôtre, il n'y a pas quelqu'un qu'on appelle pasteur, il n'y a pas quelqu'un qu'on appelle évangéliste. Mais bien aimé, quand nous lisons les Écritures, nous voyons que Paul et les autres apôtres arrivaient dans des endroits où il y avait des chrétiens qui se réunissaient. C'est eux maintenant qui mettaient des anciens, c'est eux maintenant qui organisaient la chose. Donc on n'est pas obligé d'avoir constamment au milieu de nous un apôtre, constamment au milieu de nous un évangéliste, mais ce qu'on va avoir constamment, ça va être des anciens et des diacres, donc des gens qui ont une certaine maturité pour s'occuper des autres, pour gérer. C'est ce qu'on appelle des anciens, des évêques. Aujourd'hui, quand on dit évêque, c'est devenu quelque chose de luxueux. Non. Le évêque, ça veut dire tout simplement gardien. Ça veut dire ancien. Donc là, ces gens-là, nous devons les avoir dans tous les groupes où il y a les sauvés qui se réunissent. Donc des gens qui ont été appelés par Jésus et qu'il a ajoutés à l'église vont se réunir en des groupes. Et dans ces groupes-là, avec le temps, il va y avoir des gens qu'on appelle anciens et diacres pour gérer les choses. Mais on n'est pas obligé à chaque fois d'avoir un apôtre, un pasteur, un docteur, même si c'est ça qui serait mieux. Mais on ne va pas se freiner parce qu'on n'a pas encore de pasteur, parce qu'on n'a pas encore d'apôtre, parce qu'on n'a pas encore d'évangéliste. Non, on s'attend au grand berger qui est Jésus lui-même. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église. Donc il bâtit. Donc le groupe que vous êtes, c'est une construction de Jésus. Même si les hommes se réunissent, en réalité, c'est Dieu qui est derrière l'affaire. Et donc, nous nous réunissons, mais nous disons, Seigneur, mets-nous en relation avec un apôtre, mets-nous en relation avec un évangéliste, avec des pasteurs, suscite au milieu de nous aussi. Voilà la prière que nous faisons. C'est ça que quand on se retrouve en sauvé quelque part, on est 8, 7, s'il n'y a pas encore ces ministères-là qu'on a cités, on prie que le Seigneur nous en envoie. Et le Seigneur qui est fidèle va en envoyer. Mais on est en relation aujourd'hui avec les technologies numériques. On peut être en relation avec un apôtre, avec un pasteur, même à distance, pour assurer un certain enseignement qui nous maintienne dans la vérité, qui ne nous fasse pas éloigner de Dieu. Mais ce n'est pas obligé que dans le groupe, il y en ait forcément. C'est ainsi que beaucoup de gens se sentent obligés d'aller dans des églises avec les salles parce qu'ils se disent, mais si on s'est réuni à 4 ou à 5, ce n'est pas l'église. C'est faux. L'église, on peut être à 10, à 7, c'est l'église. Mais toujours dans l'objectif biblique de servir Dieu pour notre région et vivre la famille de Christ. C'est très important, travailler ensemble dans la logique de l'unité qu'on a expliqué les deux premiers jours. C'est ça l'Église. Et en même temps, nous prions, Seigneur, mets-nous en relation avec des apôtres, des docteurs, des pasteurs, suscite quelques-uns au milieu de nous. Voilà le travail que vont faire ces sauvés-là. Et quand on lit les Actes des apôtres et les autres épîtres, on voit que les apôtres voyageaient d'endroit en endroit. Il y a des endroits où ils arrivaient, où c'est un apôtre qui avait commencé une église, l'apôtre est passé. Les frères ont continué à se supporter tout seuls avec des anciens. Et un apôtre vient, il les enseigne encore, il les fortifie, il les met à nouveau, il les met davantage sur la direction divine. Et il poursuit son chemin après 6 mois, après 4 mois. Voilà. Maintenant, quand il y a des temps de richesse, chaque groupe va avoir peut-être un apôtre, va avoir peut-être un pasteur, ou deux ou trois. Dans les temps de richesse, gloire à Dieu, mais il y a des temps difficiles. Et dans ces temps difficiles, on ne doit pas être exigeant à vouloir à tout prix au milieu de nous avoir tout. On doit se contenter de ce que Jésus va nous servir à travers les instruments qu'il a choisis, qu'ils viennent périodiquement, ou bien qu'ils viennent sans qu'on le sache, le Saint-Esprit peut les envoyer pour venir nous soutenir, comme on lit dans les Actes des apôtres. Donc l'Église, ce n'est pas une grande salle. L'Église, c'est les humains. Ce sont ceux qui sont sauvés. C'est ça qui est important. Et nous avions dit le premier jour qu'il fallait travailler, que chacun travaille pour l'unité dans l'Église. On a cité des versets, il y en avait beaucoup qui montraient l'unité dans l'Église. Il faut que nous soyons simples. On a cité toutes les qualités qu'il fallait manifester pour qu'il y ait l'unité dans l'Église. On avait dit que c'est chacun qui porte l'unité dans l'Église. Ce n'est pas les autres, c'est toi. Tu veux l'unité, tu veux la construction, c'est toi qui dois commencer. C'est le fameux passage, on va le relire, Jean 1 Jean 1,7 qui nous le dit. 1 Jean 1,7.
Lisons la parole dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.
Amen. Donc ce verset nous dit que si chacun de nous marche vraiment avec Jésus dans la lumière, naturellement on n'aura pas forcé. On va être en communion, même quand on ne se connaît pas. Même quand tu arrives en Suède, tu arrives en Corée du Sud, tu rencontres les vrais chrétiens, naturellement tu seras en communion parce qu'ils sont attachés à Christ comme toi tu es attaché à Christ. Donc le vrai problème, c'est la perfection, la sainteté personnelle. C'est ça le vrai problème qu'il y a dans les églises. Il y a trop de gens qui ont une foi superficielle. C'est ce qu'on a dit le deuxième jour. Il y a trop de gens qui ne sont pas convertis à 100%. C'est ce qui fait qu'on a des problèmes de division parce que beaucoup n'ont pas donné à 100% leur vie au Seigneur. Il faut prier, enseigner, échanger jusqu'à ce que le nombre de convertis puisse toujours augmenter. C'est ça qui nous rendra la vie agréable. Donc, quand chacun respectera ça, chacun cherchera à fond Jésus dans une sainteté personnelle, on sera naturellement en communion. Donc, c'est ce qu'on avait expliqué le premier jour. Donc, dans ces groupes-là où il y a des chrétiens, il faut pratiquer ce qu'on a expliqué le premier jour, 1 Jean 1,7, on a donné Philippiens 2,3, considérer les autres supérieurs à nous-mêmes. On a parlé du fait que même dans ce Philippiens 2,3, il est dit qu'il faut considérer les intérêts des autres et non pas nos intérêts à nous. Dans Matthieu 7,12, on avait dit qu'il fallait ce qu'on voulait que les autres nous fassent, que nous on le fasse pour eux. Si on respectait ce principe-là, il y aura l'unité au milieu de nous. Il fallait savoir pardonner. Et à la fin, on a clôturé en disant qu'il fallait savoir prier pour l'unité, prier pour remettre les sujets de controverse, remettre ça à Dieu, savoir prier. Prier peut décanter beaucoup de situations sans qu'on parle parfois. Donc il faut savoir prier, il faut faire confiance en Dieu. Quand on prie, il agit, au lieu de vouloir chercher à tout résoudre soi-même. Quand on applique ces principes, l'unité, la vie commune devient ensemble, et le travail en commun devient ensemble. Et le deuxième jour, nous avons parlé des attitudes de destruction. Dans les groupes chrétiens, quand il y a la jalousie, c'est des attitudes de destruction. Le fait de vouloir faire que faire le minimum pour les autres et laisser les autres faire le maximum, c'est des attitudes de jalousie en quelque sorte. On veut laisser les autres dépenser, se dépenser, et nous on veut conserver pour être à la fin meilleur. C'est faux, ça ne marche pas comme ça. Au contraire, dans les choses de Dieu, il est dit, celui qui sème en abondance récoltera en abondance. Apprendre, aujourd'hui nous avons par exemple une cafette qui distribue à la fin des cultes du dimanche des repas gratuits, des repas simples gratuits. Mais comment on distribue ça? C'est chacun qui contribue. Et il y a, avec l'habitude, on se rend compte qu'il y a souvent les mêmes qui contribuent et les autres ne le font pas. On doit prier, mais que celui qui contribue ne se dise pas, moi j'ai fait la semaine passée, je ne vais pas faire la semaine prochaine. Non, tu fais en fonction de tes moyens. Si tu en as encore, tu le fais. Tu n'as pas à dire, les autres gardent leur argent, ils en achètent des vêtements, ils en achètent des voitures, et c'est moi qui donne pour que les gens mangent. Mais tu le fais parce que toi, tu as compris qui était Dieu. Tu as compris. Tu ne vas pas changer ta compréhension parce que tu veux que les autres dépensent aussi. Continue avec ton élan. Et il y a des gens qui se disent, qui pensent que l'Église, c'est un être humain qui s'occupe de tout. Ils ne savent pas que c'est la contribution des enfants de Dieu. Et comme lui-même, il vient en tourisme, il vient dans l'esprit de recevoir seulement, il ne va pas penser qu'il faut penser aux autres et de temps à autre contribuer. Ça, c'est, moi, j'appelle ça l'égoïsme, l'individualisme. On finit par être là et recevoir. On ne pense pas être acteur. Or, le Seigneur nous sauve pour qu'on soit des acteurs. Plus il y a des acteurs, plus la gloire de Dieu va se manifester. Nous devons prier pour cela. Et que ceux qui sont déjà acteurs ne se freinent pas parce que les autres ne le font pas. C'est leur problème avec Dieu. Toi, poursuis ton élan avec Dieu. Donne-toi pour tes frères et sœurs. C'est ce qu'on avait dit, l'Église, c'est ça. Je me donne pour les frères et sœurs, comme Jésus s'est donné pour son Église. Voilà ce que nous devons imiter. On a dit qu'il y avait aussi des problèmes à cause des origines nationales, des origines tribales. Moi, je viens de tel pays, toi, tu viens de tel autre pays, moi, je viens de telle tribu. Toi, et c'est des choses qui créent des problèmes parce que les gens ne sont pas matures spirituellement. L'immaturité, c'est grave. Ça crée des problèmes inutiles. Alors qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni Gabonais, ni Suédois, on est tous un en Christ. Mais quand on n'a pas la maturité, on va mal se comporter et détruire. Et ce n'est pas bon. Et nous avons parlé aussi de la recherche de l'élévation, chercher à être le premier. On voit dans l'épître de Jean, Jean parle de Diotrephe qui cherche à être le premier parmi les frères. Et Diotrephe les a même chassés. Voilà, parce qu'il veut être le premier parmi les frères. Il y a toujours des diotrèphes. Nous devons lutter, prier jusqu'à ce que ces gens-là se convertissent et arrêtent de chercher à être les premiers. Quelqu'un qui est en Christ est déjà premier, parce que Christ est le premier. Voilà, ça suffit. Donc on se met à la dernière place et on laisse les autres à la première place. Philippiens 2:3 le dit, considérez les autres comme supérieurs. Et c'est Dieu lui-même, s'il veut nous déplacer, il nous déplacera. Nous devons nous attendre au Seigneur. Et moi, je n'aime pas les gens qui disent, j'attends mon moment, j'attends mon temps. Tu as quel temps tu attends, bien-aimé? Tu es déjà dans le temps puisque tu as Jésus. Ton moment est arrivé. Le jour où tu rencontres Jésus, tu es dans le temps. C'est bon là maintenant. Mais il y a des gens qui disent, bon, mon moment arrivera. Moi aussi, je prêcherai. Oh. Mais qu'est-ce que ça ajoute à la vie d'un homme? Prêcher, ça n'ajoute rien, parce que rien n'est plus merveilleux que le Seigneur des Seigneurs. Prêcher n'est qu'un service d'obéissance. Bien-aimé, je vous dis la vérité, j'aurais préféré ne pas être ici à prêcher. Voilà. Mais on obéit au Seigneur. Alors, on ne comprend pas ceux qui cherchent à le faire. Nous, on cherche des remplaçants. Il y a des gens qui cherchent, mais c'est la preuve qu'il y a un problème de conversion. Il y a un problème de maturité spirituelle. Celui qui a la maturité spirituelle sait que c'est un grand fardeau. il va vouloir éviter et c'est Dieu qui va le forcer. Mais celui qui n'a pas la maturité spirituelle pense que les félicitations, les amen, c'est ça qui fait le succès. Mais non, c'est rien tout ça. Il y a une dame qui a félicité Jésus. Jésus lui a dit, heureux plutôt, ceux qui écoutent la parole de Dieu et mettent cela en pratique. Jésus n'acceptait pas les félicitations. Il disait, c'est le plus important, c'est de pratiquer la parole. C'est ça, bien-aimé. À un moment, quelqu'un a dit, bon maître, il a dit, il n'y a que Dieu qui est bon. Parce que Jésus, vous savez, quand on aime ces choses-là, on se fera manger cru par le diable. Parce que, comme la fable de La Fontaine le dit, le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Si tu aimes les flatteries, ben, tu vas être servi sur la terre. Il y a des grands flatteurs sur la terre. Ne t'en fais pas. Il y a des gens même qui te diront que tu as des cheveux noirs alors que tes cheveux sont blancs pour te flatter. Donc, tu vas te faire manger cru. Il faut donner à Dieu seul la gloire. Ceux qui cherchent l'élévation là, ils ne sont pas dans la ligne de Dieu. Romains 12 nous dit, soyez attirés par ce qui est humble. Romains 12, soyez attirés par ce qui est humble. Quand nous cherchons la gloire de Dieu, ce n'est pas pour qu'on soit en avant, c'est pour que Dieu se manifeste. Mais il y a des gens qui cherchent, quand ils disent qu'ils cherchent la gloire de Dieu, ils veulent que ce soit dans sa vie. Vous savez, il y a une personne dont nous entrons dans le vif du sujet. Il y a une personne, vous connaissez Esther dans la Bible. Esther a entendu qu'on allait tuer tous les Juifs. Mais elle a voulu jouer solo. Elle a voulu se sauver toute seule. Elle s'est cachée. Elle a dit, moi je suis la femme du roi, personne ne me touchera. Mardoché a fait parvenir à Esther le message suivant. Il a dit, Esther, toi tu crois que si on tue tous les juifs, toi tu seras la seule juive à être sauvée. Tu te trompes. Où que tu sois, ils t'auront. Associe-toi au peuple de Dieu et luttons dans la prière pour qu'on ne tue pas les juifs. Esther a compris. Elle s'est associée au peuple de Dieu. Elle a avoué à son mari qu'elle était elle-même juive. Elle n'a pas caché. Il y a des gens qui veulent s'en sortir tout seul. Un succès individuel, mon ministère, mon appel. Non, nous devons vivre dans le corps du Christ. Ne commettons pas l'erreur que Esther a voulu commettre en voulant se sauver tout seul, rester la reine et que son peuple meure. Non, elle s'est associée au peuple de Dieu. Et ça a été une victoire totale pour tout le monde. Et pour elle, et pour son peuple. Quand tu cherches ton succès personnel, tu peux l'obtenir par le diable dans un premier temps, mais ça sera ta perte à toi tout seul. Mais quand tu veux que le corps du Christ bénéficie, et c'est que Dieu a placé en toi, que ce soit le corps du Christ, que ce soit Jésus qui est la tête de ce corps qui reçoive la gloire, et toi et les autres seront bénis. Mais ton succès personnel, tu en profiteras tout seul pour ta perte. Comme beaucoup d'autres nous ont précédés dans la perte parce qu'ils ont cherché leur succès personnel, ils ont cherché le ventre. Bien-aimés, cherchons la vérité. Cherchons que le corps du Christ fonctionne avec puissance par notre apport, sans chercher à se mettre en évidence. Que à Dieu seul soit la gloire. Même si c'est toi qui... Dieu nous utilise tous. Il peut se faire que ce que je prêche là, Dieu a utilisé un frère ou une sœur pour me dire, mais tiens, mais il y a un tel thème qui est important. Maintenant, toi, tu vas, après les 3 jours, bon, le thème là, c'est moi qui avais parlé au pasteur. Pourquoi chercher qu'on te connaisse que c'est toi qui avais dit au pasteur, c'est pourquoi il a fait le séminaire? Non, donne. Parce que qui t'a utilisé? Dieu qui a utilisé le pasteur Dieu. Donc, quelque part dans ta tête, tu considères que le pasteur, c'est son succès. Donc, tu n'as pas encore compris que c'est Dieu qui l'utilise. Lui n'a rien du tout. Donc, tu fais encore confiance aux hommes. Tu te reposes sur les hommes. C'est pourquoi tu veux aussi qu'on sache ce que toi t'as fait. C'est ça le problème. Mais si tu considères que c'est Dieu qui m'utilise, qui t'utilise, qui utilise tout le monde, tu n'as pas besoin de t'afficher, puisque c'est Dieu qui agit. À Dieu seul, la gloire. Donc, bien-aimé, qu'on ne nous fasse pas prendre dans le piège de chercher l'élévation. Cherchons à ce que Dieu seul soit glorifié. Ne tombons pas non plus dans le piège de surestimer les problèmes. Un problème, il est petit, on aggrave, on dramatise. Non, il faut savoir doser les problèmes, savoir doser les événements. Il ne faut pas mélanger les choses. Le Seigneur, Pierre l'a renié, mais il a relativisé la chose. Il a laissé Pierre être le dirigeant de l'Église, malgré le fait qu'il avait renié. Il a compris qu'il y avait des pressions. Il a compris que Pierre était encore confiant en lui-même et que cet événement-là a permis, au contraire, à Pierre d'être purifié et de se confier maintenant au Seigneur. Donc voilà, il faut savoir doser, bien-aimé, ne pas dramatiser. Tu apprends comment critiquer, tu apprends qu'on a fait ceci sur toi. Tu dramatises et ça crée tout le temps des problèmes. Il y a des gens qui ne font que dramatiser. Il y en a même qui ne supportent pas qu'on leur fasse une remarque, qu'on leur dise « tu es mal habillé » ou bien « tu parles fort » ou bien « tu exagères dans telle chose ». Il y en a, dès qu'on leur fait un reproche, on devient ennemi. Non, les gens qui nous font du reproche nous font du bien. Même s'ils parlent mal, même s'ils nous rabaissent, mais ils nous font du bien. Parce qu'ils nous empêchent de tomber. Il ne faut pas le prendre mal. Mais nous, on va se dire, ah, oh, certainement, il m'a parlé parce que, voilà, il n'a pas la chose que moi j'ai. Voilà. Certainement, elle m'a parlé parce qu'elle est jalouse de mon don de prophétie. Mais non, bien-aimé. Si quelqu'un te fait un reproche, même si c'est un reproche mal placé, prends ce qui est bon, mets de côté ce qui est mal placé. Mais ne sois pas en position de défensive orgueilleuse. Voilà, bien-aimés, ne dramatisons pas, relativisons les choses. On avait une fois prêché là-dessus, on avait parlé de l'indulgence. Soyons indulgents avec les autres. Donc, trouvons-leur des excuses pour qu'on continue à les aimer et à travailler ensemble. C'est important. Donc, voilà ce qu'on a dit les deux jours précédents. Et aujourd'hui, on veut insister sur l'Église du Dieu vivant. Nous sommes un peuple. Vous savez, quand on veut bien savoir les choses bibliques, il faut toujours regarder au passé et l'avenir. Dans la Bible, il y a le présent, il y a le passé et l'avenir. L'avenir, on peut voir ça clairement dans le livre d'Apocalypse. Le passé, on le voit dans l'Ancien Testament. Et le présent, on le voit dans le Nouveau Testament souvent. Et quand on parle d'Église, bien-aimé, regardons le passé. Dieu a un peuple aussi, le peuple d'Israël. Dieu a toujours voulu avoir un peuple. Toujours. Il a voulu avoir un peuple. Quand tu comprends ça, tu comprends qu'il ne faut pas blaguer avec l'Église du Seigneur. C'est le peuple de Dieu. On a vu tous ceux qui ont voulu attaquer Israël, comment ils ont fini. Aujourd'hui, il y a un autre peuple aussi. C'est le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur. L'Église du Dieu vivant, comme on a lu dans 1 Timothée 3, colonne de la vérité. On a vu comment Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils ont voulu mettre la semence du mensonge là où il y a la colonne de la vérité. Ils sont morts tout de suite dans Actes des Apôtres, chapitre 5. L'Église, c'est le peuple de Dieu. Il y a eu déjà un peuple avant. Ça n'a pas marché. Dieu ne les a pas oubliés, mais le système avec Dieu, ça n'a pas marché. Et Dieu s'est formé un nouveau peuple, l'Église. Et avec ce peuple, il veut marcher en berger. C'est écrit dans Psaume 95, il est notre Dieu. Nous sommes le troupeau dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Nous sommes plutôt le peuple dont il est le berger. le troupeau que sa main conduit. Donc, on a un berger et nous sommes dans le troupeau. Donc, quand on réalise ces choses, on prend au sérieux l'Église du Seigneur. Et quand je dis l'Église, ce n'est pas seulement un groupe. Je vous ai dit en introduction, c'est tous les chrétiens du monde entier. Ça fait l'Église du Seigneur. Maintenant, à cause des contraintes physiques, on est séparés en groupe. Mais nous, nous ne devons pas penser que le groupe, un groupe prédomine sur l'Église corps du Christ. Non, l'Église totale est supérieure à une Église locale. Nous ne devons pas vivre pour un groupe. Nous devons travailler dans un groupe, mais nous vivons pour le Seigneur. Et si le Seigneur nous demande d'aller ailleurs, on suit le Seigneur. Mais on respecte toujours les normes bibliques des choses. Ce qui est important, c'est de comprendre le peuple de Dieu. Dieu nous a sauvés, non seulement pour travailler pour lui, mais aussi pour former son peuple. Il ne faut pas qu'on ait des relations que de travail. À l'intercession, on va ensemble. Chanter, on va ensemble. Mais on ne vit pas le peuple de Dieu. On ne vit pas la famille de Dieu. Or, ça fait partie de l'objectif du Seigneur. Ce n'est pas seulement faire une armée. Nous ne sommes pas seulement une armée. Nous sommes une famille, nous sommes une tribu, nous sommes un peuple, le peuple du Seigneur. Et quand on prend conscience de ça, on ne se laisse pas diviser facilement par les ruses du diable. On ne se laisse pas séparer des autres bien-aimés parce qu'on sait que ce sont nos frères. Quand on entend ces choses-là, quand on sait qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés, en Arabie Saoudite, on prie pour eux parce que ce sont tes frères. Il faut que cette dimension-là de peuple de Dieu augmente en nous. Ça va nous purifier de l'orgueil, de l'esprit de recherche de gloire individuelle. Le peuple de Dieu. Et quand tu as l'idée du peuple de Dieu, automatiquement tu te sens petit parce que le peuple de Dieu est dans le monde entier. Tu te sens petit. Tu as même toi-même envie d'être dirigé par Jésus comme berger. Parce que tu te sens petit devant cette immensité du peuple de Dieu. Et donc nous tous, on se range derrière le Seigneur. Et le Seigneur nous conduit en fonction de sa sagesse dans les groupes locaux. Et nous devons respecter cette conduite qui est aussi fixée dans la parole de Dieu. Mais nous sommes un peuple. Que ce soit le passé, que ce soit le présent. On a lu le texte, Jésus dit, sur ce roc, je formerai mon église. Une assemblée, un peuple. Lisons aussi l'avenir, Apocalypse 21:1-8, pour comprendre vraiment combien Dieu est attaché à ça, à cette notion-là. On retrouve ça dans l'avenir. Apocalypse 21:1-8.
Lisons la parole de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris. Car ses paroles sont certaines et véritables. Et il me dit : C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils.
Amen. Amen. Dieu dit : Voici le tabernacle, la nouvelle Jérusalem. Voilà l'habitation, tabernacle c'est habitation, voilà l'habitation de Dieu avec les élus, avec les sauvés, ils seront son peuple. Là, ça sera la perfection. Il n'y aura plus ni jalousie, ni haine, ni colère, ni recherche d'élévation, parce que ça sera la fin de tout. Mais c'est dit encore, ils seront son peuple. Nous serons le peuple de Dieu. Et c'est le travail qu'il a commencé dès maintenant. Il faut accepter cela. On ne peut pas vivre sa vie chrétienne comme un touriste. Quand on est sauvé, Dieu nous rajoute à l'église du Seigneur pour former un peuple afin de vivre et travailler ensemble. C'est ça le but. Vivre en séparation, en isolé et en se disant « Moi, j'ai donné ma vie à Jésus, j'irai au ciel. » Ce n'est pas vraiment avoir donné sa vie à Jésus. Là, quelque part, on a juste pris le ticket du ciel par Jésus. On n'a pas donné, puisque quelqu'un qui donne sa vie, ce n'est plus sa vie. C'est Jésus qui dirige maintenant sa vie. Il a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Quand tu seras mature, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et t'amènera où tu ne voudras pas. Tu deviens une autre personne. C'est lui qui te conduit. Et quand lui, il te conduit, tu es sûr de réussir tout ce que tu fais. Parce qu'il est avec toi. Alors, quand tu gardes ta vie, tu penses réussir. Jusqu'au jour où un événement va te faire comprendre que sans Jésus, tu ne peux rien construire. Autant tout donner au Seigneur. C'est ça ma requête aujourd'hui. Tout donner au Seigneur et faire partie de son peuple. Accepter de vivre avec d'autres sauvés, de vivre avec d'autres chrétiens pour construire l'œuvre de Dieu sur la terre, l'œuvre d'adoration, l'œuvre de communion, comme c'est écrit dans Actes 2, il persévérait dans l'adoration, dans les prières, il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Donc tu te consacres à Dieu, tu te livres pour le peuple de Dieu afin de communier avec le peuple de Dieu, de travailler avec le peuple de Dieu, d'intercéder avec le peuple de Dieu, d'adorer Dieu avec le peuple de Dieu. Et quand Dieu est au ciel, il voit cela. Psaume 133 s'accomplit. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il descend et manifeste sa gloire. Nous voulons que la gloire de Dieu revienne dans son Église. Mais il faut que nous appliquions les principes bibliques. Nous devons être le peuple du Seigneur. Dans Actes des Apôtres au chapitre 2, ils étaient tellement le peuple de Dieu, ils étaient tellement ensemble que la gloire de Dieu s'est manifestée. L'individualisme fait fuir l'Esprit Saint du milieu de nous. Revenons à la simplicité de l'Évangile. Que chacun s'engage pour servir l'Éternel. Tout à l'heure, je vais baptiser des personnes, mais bien aimé, ce n'est pas moi qui ai travaillé directement, peut-être indirectement, mais directement, ce n'est pas moi qui ai travaillé pour que ces gens-là soient convaincus de se faire baptiser. C'est d'autres personnes qui ont travaillé. Mais à la télé, c'est moi qu'on va voir. Et alors, le problème, c'est quoi? À Dieu seul la gloire. C'est tout. Si maintenant les gens disent, ah, comme moi, on ne me laisse pas faire baptiser les gens, je n'évangélise plus. Oh, le pasteur, il fait tout là. Tu cherches quoi? Tu cherches à baptiser. Mais bien aimé, déjà que nous, on n'a pas de salaire. Maintenant, si on disait que chaque baptême amenait 200 euros, mais je crois qu'il y avait à avoir la bagarre. Mais ça, on cherche quoi? Cherchons la gloire du Seigneur. Tu travailles en tant que combattant. Vous savez, dans Jean 4, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas semé. Peut-être notre existence aujourd'hui en tant que chrétien et église est due au fait qu'il y a des années, des gens ont prié pour nous, ont prié pour la Normandie. Un jour, il y a 10 ans, j'étais parti prêcher à la Baule lors d'un mariage. Et il y avait 95% de païens. Mais le Seigneur m'a donné la force j'ai attaqué la parole. Même s'il y a des esprits qui avaient fait exploser le haut-parleur, juste avant la prédication, j'ai pris la parole, j'ai dit, aujourd'hui je comprends pourquoi j'ai une grosse voix. Donc Dieu m'a donné une grosse voix pour pouvoir parler sans haut-parleur. C'était ça l'introduction de ma prédication. Et je leur ai dit carrément, il fallait qu'ils se repentent et qu'ils donnent leur vie au Seigneur Jésus. Alors qu'ils étaient là, ils me regardaient méchamment, hein, mais le Saint-Esprit était là. Et à la fin, je demande encore qui veut se convertir. Les gens, les bulldogs qui étaient devant là, personne ne levait la main. Il y a quelqu'un au fond qui a levé la main, c'était une femme. Et à la fin, je vais la voir. Elle me dit, je suis déjà chrétienne, mais j'ai levé la main parce que j'ai eu pitié de toi, tu étais tellement engagée. Malgré les regards méchants, tu continuais. J'ai voulu t'encourager, j'ai levé la main. Et quand je leur ai dit que je venais de Normandie, ils ont dit, mais ça fait 20 ans qu'on prie pour que Dieu envoie en Normandie quelqu'un comme toi. Ça fait 20 ans. Ce jour-là, ils ont vu. Ils ont dit, nous, on était dans une église à Caen. On était 700. Mais après, il y a eu la négligence. La parole de Dieu a baissé en Normandie. Et aujourd'hui, on est dans cette région. Mais depuis cette époque-là, nous prions pour que Dieu envoie en Normandie quelqu'un comme toi. Voilà. Peut-être tu es là parce que quelqu'un a prié avant. Alors, tu n'as pas à te vanter. Fais tranquillement le boulot. À Dieu seul la gloire, bien-aimé. Fais le boulot pour l'amour de Jésus, dans un esprit de reconnaissance. Nous sommes un peuple. Dieu tient à son peuple. Dieu ne cherche pas à valoriser un humain. Il veut valoriser le nom de Jésus. C'est lui qui s'est sacrifié à la croix. Il a crié à la croix, tout est accompli. C'est que nous sommes inutiles, puisque lui, il a tout accompli. Comprenons cela et laissons Dieu faire, puisqu'il dit lui-même, tout est accompli. En réalité, nous sommes inutiles, puisqu'il a tout accompli. On n'est qu'une conséquence de ce qu'il a fait lui-même à la croix, quand il a crié, tout est accompli. On n'est qu'une conséquence. Quand tu n'es qu'une conséquence, pourquoi tu veux te vanter comme si tu étais la source? Reste la conséquence et fais ce que Dieu te demande de faire, mais dans une relation dans le peuple de Dieu, avec le peuple de Dieu, dans le peuple de Dieu. Que ce soit l'objectif, on ne peut pas avoir comme objectif d'être la meilleure église de je ne sais où. Non, on est avec les autres enfants de Dieu, on forme tous le peuple de Dieu. Et quand on rencontre des chrétiens d'une autre assemblée, on doit être humble parce qu'on est tous le peuple de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui va trier. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils se rencontrent d'horizons différents, ils sont tellement avec des crochets bien réveillés. Non, pourquoi? Tu rencontres des chrétiens qui se vantent, tais-toi, continue ton chemin, prie le Seigneur, ne cherche pas à leur montrer ce que toi aussi tu connais. Laissons le Saint-Esprit prendre l'avantage sur nous tous. Mais ça commence par une discipline personnelle. Le Seigneur veut vraiment que nous puissions considérer son peuple, considérer son Église, la colonne de la vérité, vivre dans cet esprit-là. Arrêtons avec l'individualisme et disons aujourd'hui à Jésus, nous voulons que tu sois notre berger à nouveau. Parce que beaucoup oublient cela. Jésus veille sur son Église. Il bâtit son Église. N'ayez peur de personne. Jésus est là. Nous allons prier le Seigneur. Prosternons-nous devant le roi. Fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi. Fléchissons le genou devant le Père, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est berger, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main. Oh, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main, le troupeau de Jésus, que sa main conduit, le troupeau. Que sa main. Oh Seigneur, aide-nous à être des disciples dans ton troupeau, des gens qui ne viennent pas en spectateurs, mais des gens qui veulent marcher dans ton peuple pour travailler pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être comme toi qui t'es donné toi-même pour ton Église. Si on dit qu'on est chrétien, c'est que nous sommes comme toi, alors. Aide-nous à comprendre cela et à nous offrir pour ton Église aussi, Seigneur, comme toi tu as fait. Aide-nous, Seigneur, à considérer que tu es notre berger. Tu t'occupes de ton Église, même si ça donne l'impression que ce sont les hommes qui font. Mais la vraie Église, celle qui est invisible au regard humain, c'est toi qui t'en occupes. Et tu manifestes ta visibilité à travers des vrais chrétiens, Seigneur. Nous te faisons confiance et nous voulons, Seigneur, te servir avec ton peuple. Nous ne voulons pas garder un salut isolé, un salut froid, individualiste. Nous voulons le salut véritable qui est l'immersion dans ton peuple. Car il est dit que tu rajoutais à l'Église ceux qui étaient sauvés, Seigneur. Et nous voulons te faire confiance par rapport à ce qui est dit dans ta parole, que tu as établi des gens pour nous conduire, pour nous aider. Et nous sommes sûrs que toi, tu es au-dessus d'eux et plus fort qu'eux. Et s'ils ne marchent pas selon ta volonté, Seigneur, c'est toi qui reprends le contrôle. Nous voulons nous confier en toi, Seigneur Jésus. Nous voulons être des disciples, des acteurs dans ton Église et non pas des suiveurs, des spectateurs. Manifeste-toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, dans le nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur, toi le Dieu vivant. Merci de t'occuper de ton Église. Merci de t'occuper de ce groupe local et des autres groupes locaux où il y a des sauvés qui tiennent à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, ô Jésus. Béni soit ton nom. Amen.